Vous êtes sur RTL.
Lana Clarkson fell victim.
Lana Clarkson a été victime de Phil Spector le 3 février 2003, vers 5h du matin. Elle est la dernière d'une longue liste de femmes qui ont été attaquées par Phil Spector par le passé.
Bonsoir. Comment l'un des rois de la pop musique, l'un des producteurs les plus prolifiques de l'histoire, a basculé dans le crime ? L'américain Phil Spector, c'est de lui dont il s'agit. L'homme qui avait notamment fait de Let It Be des Beatles un succès universel est mort le samedi 16 janvier en prison. Il y purgeait une peine de 19 ans de détention pour le meurtre en 2003 d'une actrice sur le déclin, Lana Clarkson. C'est évidemment le scénario de ce meurtre que nous allons décortiquer ce soir. Scénario des plus troubles pour un crime sans témoin direct, à huis clos, avec un meurtrier présumé qui va nier les faits. Une enquête complexe qui jusqu'au bout va être indécise et qui va beaucoup s'appuyer, il faut bien le dire, sur la mauvaise réputation de Phil Spector, son goût pour les armes et la violence. Il faudra pas moins de 6 ans à la justice et 2 procès pour parvenir à la condamnation du producteur. Avec nos invités, nous allons donc reprendre le fil de cette histoire tragique qui a signé la fin d'un génie absolu de la musique, l'a poussé le temps d'un coup de feu au petit matin dans la plus absolue des pénombres. Phil Spector, le producteur meurtrier, a-t-il vraiment voulu ôter la vie à l'actrice Lana Clarkson ? C'est l'enquête ce soir de l'heure du crime, on se retrouve tout de suite sur RTL.
L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard jusqu'à 21h sur RTL. RTL. 20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Et ce soir, dans l'heure du crime, Phil Spector, producteur et meurtrier. À l'hiver 2003, un seul coup de feu à l'intérieur d'un gigantesque manoir sur les hauteurs de la ville d'Alhambra, près de Los Angeles, va déclencher un long feuilleton judiciaire. Ce 3 février 2003, au petit matin, Adriano da Souza patiente, assis dans une Mercedes flambant neuve, au pied des 88 marches qui conduisent à l'intérieur d'une bâtisse tout aussi baroque que tentaculaire, le Pyrénées Castle à Alhambra, propriété du producteur Phil Spector. Da Souza, un Brésilien, et son chauffeur. Vers 3h du matin, il a déposé ici Phil Spector, passablement ivre, avec une femme, une grande blonde, une hôtesse, rencontrée dans le salon VIP de la House of Blues, une boîte de nuit de Hollywood. Un endroit où le richissime producteur, 64 ans, a ses habitudes, comme d'autres célébrités. Il a sa carte de membre, $1000 la cotisation annuelle. Quand Spector est descendu de la Mercedes, il avait du mal à tenir sur ses jambes. La jeune femme, vêtue d'une robe noire, l'a alors aidé à monter les marches. Un quart d'heure plus tard, le chauffeur a vu réapparaître le producteur qui, selon lui, avait l'air en colère, désorienté. Il l'a alors accompagné dans le manoir. Il n'a pas vu si la femme était encore là. Un peu avant 5 heures du matin, le chauffeur entend un claquement sec. Da Souza a servi dans l'armée au Brésil. Il reconnaît le bruit caractéristique d'un coup de feu. Il sort de la voiture, mais le silence est retombé. Émerge alors sur le perron Phil Spector, dans la tenue qu'il portait lors de la soirée, veste blanche, pantalon noir, chemise noire. Le chauffeur affirme qu'il tient une arme dans sa main droite tachée de sang. Spector aurait alors murmuré cette phrase sur laquelle va s'appuyer l'accusation et que niera l'intéressé « Je crois que j'ai tué quelqu'un ». « Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur ?» aurait questionné le chauffeur, obtenant cette réponse « Je ne sais pas ». Adriano da Souza fait quelques pas dans le vestibule et aperçoit cette fois la femme écroulée sur un fauteuil et le visage en sang. Vers 5h15, une première voiture de police arrive au manoir d'Alhambra, puis une deuxième, 5 policiers au total. Phil Spector s'est réfugié à l'étage, il est hors de lui. Il refuse de venir à la rencontre des policiers, tellement agité qu'un agent utilise la manière forte. Il actionne à 4 reprises son pistolet taser, sans effet. Phil Spector est alors plaqué au sol et menotté. La victime est affalée dans un fauteuil. Selon les premières constatations, elle porte une blessure à la bouche causée par un seul tir. Des débris de dents cassées sont retrouvés dans le vestibule et au pied d'un escalier. Une arme est au sol, un revolver de marque Colt, calibre 9 mm. 5 cartouches sont dans le barillet. et sous le chien, une douille. Il y a des éclaboussures de sang sur l'arme. Je n'avais pas l'intention de lui tirer dessus. C'est un accident, aurait dit Spector. Déclaration non enregistrée et donc sujette à caution. À 6h24, la victime est officiellement déclarée morte. Elle s'appelle Lana Clarkson, 40 ans, une ancienne actrice. Bonsoir Emmanuel Pierrat.
Bonsoir Jean-Alphonse Richard.
Vous êtes avocat au barreau de Paris, spécialisé dans le droit et la culture des médias. Vous êtes l'auteur du livre « Star à la barre » chez Hugo Doc. Je précise qu'il n'y a pas de chapitre consacré à Phil Spector dans ce premier ouvrage, mais vous allez en sortir, je pense, un deuxième où vous raconterez l'histoire incroyable de Phil Spector. On va évidemment raconter avec vous cette enquête, pour le moins d'ailleurs chaotique. Mais tout de suite, en quelques mots, qui est Phil Spector ?
Phil Spector est le plus célèbre producteur de musique, sans doute de la planète du XXe siècle, c'est-à-dire le plus grand producteur de musique, une légende vivante. C'est l'homme qui a produit John Lennon, les Beatles, qui a produit Ike et Tina Turner, qui a produit la majorité des tubes de l'Amérique de la deuxième partie du XXe siècle. C'est l'inventeur d'un système d'écoute de la musique ou d'un enregistrement qu'on appelle le mur du son, le wall of sound, qui a changé le visage du disque et de la pop. Et c'est une légende. Aussi par sa violence, ses manières et son physique extraordinaire. Il a été victime d'un accident de voiture qui l'a défiguré et qui l'oblige à porter des perruques de plus en plus, on va dire, effrayantes ou époustouflantes au fur et à mesure des années.
Tout à fait. Alors, c'est quelqu'un qui, à cette époque de la mort de cette femme, est vieillissant, mais il est toujours multimillionnaire. On en parle aussi ce soir avec notre deuxième invité de l'heure du crime. Bonsoir Thomas Cantaloube.
Bonsoir.
Vous êtes en ligne ce soir dans l'heure du crime. Merci beaucoup. Ancien correspondant aux États-Unis pour plusieurs journaux, vous connaissez bien ce coin de Californie et puis l'histoire de Phil Spector. On est ici, je le disais, à Alhambra. C'est une espèce de grande banlieue de Los Angeles. Et puis il y a cet incroyable manoir, le Pyrénées Castle, le lieu du crime. Décrivez-nous un petit peu cet endroit, Thomas Cantaloube.
Voilà, alors tout d'abord, Alhambra, effectivement, fait partie des multiples banlieues de Los Angeles. Elle est assez quelconque, hein, coincée entre Pasadena et le centre-ville de Los Angeles. Phil Spector lui-même dira « c'est une ville de plouques ». C'est essentiellement une cité dortoir, de petites maisons. Et au milieu de cette cité dortoir, il y a une colline sur laquelle se dresse donc le Pyrénées Castle, le château des Pyrénées, qui a été, je crois, construit dans les années 20 par un émigré français qui, soi-disant, avait construit ce château, parce que ça lui rappelait un château de son enfance. Alors je pense que c'est plutôt le côté espagnol des Pyrénées, parce que c'est une bâtisse de deux étages, quatre tourelles blanches, qui effectivement peut faire pensée qui évoque, certains commentateurs ont dit, un château qu'on aurait pu trouver dans le Cid, par exemple.
Oui, alors c'est pas un endroit très rassurant quand moi je l'ai jamais visité, mais en regardant les photos, effectivement, il y a un côté un petit peu sombre et effrayant sur cette espèce de colline. Thomas Cantaloube, encore une question. J'ai posé tout à l'heure la question à Emmanuel Pierrat qui était Phil Spector. Je vous pose la question. Qui est la victime, Lana Clarkson? Une ancienne actrice, une starlette, c'est ça?
Alors, elle était toujours actrice. C'est une actrice de série B, on va dire. Voilà. Elle fait partie de cette immense cohorte de gens qui, un beau jour, sont venus à Los Angeles pour essayer de percer dans l'entertainment, donc soit la musique, soit le cinéma, et qui finalement n'ont jamais réussi à percer. Donc elle a une succession de petits rôles dans des films de... Les meilleurs étant ceux de Roger Corman, qui est un peu le pape de la série B, des films comme L'Empereur des Barbares ou La Reine des Barbares, des choses comme ça. Elle a fait de la figuration et elle a 40 ans. Elle est très jolie, elle mesure 1m80, mais voilà, c'est une actrice qui a jamais réussi à percer. Et il est probable que lorsqu'elle voit Phil Spector arriver à la House of Blues, elle n'a pas encore renoncé à tous ses rêves. Elle se dit, peut-être que si je l'accompagne, si je passe un moment avec lui, il va m'ouvrir certaines portes qui permettront de relancer ou de démarrer peut-être ma carrière.
Oui, c'est tout à fait exact, puisqu'elle a accepté ce job, entre guillemets, d'hôtesse dans cette VIP room pour justement rencontrer des personnalités dans l'espoir que sa carrière perdue puisse rebondir. Emmanuel Pierrat, vous êtes avocat et donc vous connaissez bien aussi les aspects criminels purement des choses. Que dit cette scène de crime que la police, d'ailleurs, n'a pas fini d'explorer? Elle est toute simple, cette scène de crime.
Elle est toute simple parce qu'il y a en plus les mots de Phil Spector à son chauffeur,
Qui resteront à confirmer. Hein,
qui resteront à confirmer, mais qui ont été beaucoup relayés et
bien
repris
sûr.
En disant « je crois que j'ai tué quelqu'un, que je viens de tuer quelqu'un ». Après contesté par Phil Spector lui-même, hein, moins de 2 mois plus tard, il commence à entonner une autre litanie selon laquelle elle se serait suicidée, Lana Clarkson, avec son propre colt, son propre revolver, qu'elle aurait voulu susauter en quelque sorte, mais et par désespoir.
Il va d'ailleurs le dire assez vite. Ça,
il va le dire assez vite, très vite. Ça va être une rare ligne de défense, on va dire même pas cohérente, mais qu'il va essayer de tenir. La scène de crime, elle est simple, effectivement. Il y a un corps, il y a un endroit, il ne conteste pas qu'il l'a ramené avec lui, et ensuite, il y a quand même un mystère sur les 3 heures qui se sont écoulées.
Donc, et même un très grand mystère, parce que ça, c'est tout le propre, justement, des scènes de crime à huis clos, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de témoins.
Il n'y a pas de témoin, on est un peu avant, on est au début des années 2000, on est avant les caméras vidéo de surveillance partout, on est avant, voilà, il n'y a pas de témoin. C'est un huis clos dans lequel on sait qu'un homme ramène une femme, leurs intentions, ses intentions à lui sont à peu près claires, je pense, hein, draguer, coucher avec elle, sans doute.
Oui, d'autant plus qu'on va le voir, d'ailleurs, dans le chapitre qui vient, on va le voir qu'effectivement, avant cela, il a rencontré plusieurs autres femmes, etc., et que sans doute, il comptait finir la nuit avec Lana Clarkson chez elle. En tout cas, c'est ce qui apparaît le plus sûrement dans ce dossier. La mort de Lana Clarkson et le placement en garde à vue de Phil Spector font immédiatement le tour de toutes les rédactions. Pour le moment, rien n'accuse formellement le producteur. Les enquêteurs vont être partagés, en proie au doute. Phil Spector, le génie de la musique, a-t-il tué Lana Clarkson ou s'agit-il d'un suicide? L'enquête ce soir de l'heure du crime, rendez-vous dans un instant sur RTL.
20h-21h, l'heure du crime sur RTL. L'heure du crime sur RTL.
Heure du crime consacrée ce soir à l'affaire Phil Spector. Ce 3 février 2003, le plus célèbre des producteurs est entre les mains de la police. Suspecté d'avoir tué dans son somptueux manoir Lana Clarkson, une ancienne actrice rencontrée quelques heures auparavant. Phil Spector, emmené au commissariat central d'Alhambra à 6h28 du matin, est placé en cellule de dégrisement. Trop insultant et excité pour pouvoir être entendu. Après s'être calmé, on lui ôte ses menottes. Il fait une première déclaration à l'agent Derek Gilliam. Il explique qu'il ne sait pas où Lana Clarkson a trouvé le pistolet. Selon lui, elle aurait commencé à l'agiter dans tous les sens. Il lui aurait alors demandé de déposer l'arme, mais sans succès. Elle aurait commencé à chanter ses chansons, parmi lesquelles Dadou Ron Ron, tout en continuant de jouer avec l'arme et en la rapprochant de son visage. Le coup serait parti à ce moment-là. Le producteur va s'en tenir à cette version. Son premier avocat, Robert Shapiro, l'homme qui avait organisé la défense de O.J. Simpson, est appelé à la rescousse. À 19h, Phil Spector est relâché après avoir payé une caution de 1 million de dollars. Pour éviter la presse, il quitte le commissariat par une porte dérobée. 2 mois après le drame, l'avocat Robert Shapiro affirme qu'il apportera la preuve que Spector est innocent de tout crime. Phil Spector est libre, mais l'enquête n'est pas terminée pour autant. Tout au contraire, les policiers mettent les bouchées doubles pour éclaircir la mort trouble de Lana Clarkson. Dans un premier temps, ils reconstituent l'emploi du temps du producteur dans la soirée du 2 février. Spector a quitté avec son chauffeur le manoir d'Alhambra vers 19h. Il est allé dîner avec Romy, une amie. Il a commencé à boire. Puis 2 heures plus tard, il a retrouvé Kelly, une serveuse, a bu quelques verres avec elle. À 1h30, il l'a entraînée au House of Blues, puis lui a demandé de partir. Sur le coup de 2h du matin, alors que le bar du club fermait, il a demandé à la nouvelle hôtesse du club VIP, Lana Clarkson, de venir s'asseoir à côté de lui. Jusque-là, elle ne connaissait absolument pas le producteur. Celui-ci a insisté pour qu'elle vienne prendre un dernier verre au manoir. Elle a refusé 3 fois, puis accepté sans enthousiasme de le suivre. La scène de crime est également passée au crible. Il s'avère que du sang a bien été retrouvé dans les encoches de l'arme ainsi qu'à l'intérieur du barillet. Le revolver, pourtant, a été nettoyé après le tir. Dans les toilettes, les policiers retrouvent une lingette imbibée d'eau et du sang de Lana Clarkson. Au premier étage, dans un dressing, il est découvert la veste blanche que Spector portait au moment des faits. La manche gauche et le plastron sont constellés de petites taches de sang. La police découvre dans le manoir tout un arsenal, pas moins de 13 armes, 5 dans la chambre principale, certaines chargées de balles 9 mm assez rares, des Special P, la même munition qui a tué Clarkson. Le revolver du drame n'est pas officiellement enregistré, son numéro de série ne désigne aucun propriétaire. Thomas Cantaloube, vous êtes en ligne ce soir dans l'heure du crime, journaliste et ancien correspondant de plusieurs journaux aux États-Unis. On a dans ce dossier, évidemment, pour le moment, la seule parole de Phil Spector. Et il va tout de suite dire que Lana Clarkson s'est suicidée. Il va beaucoup insister là-dessus. Ça va être vraiment sa ligne de défense.
Oui, c'est sa ligne de défense tout de suite. Si l'on nommait effectivement ce qu'avait rapporté son chauffeur, hein, puisque son chauffeur avait déclaré à la police tout de suite que Phil Spector lui avait dit je crois que j'ai tué quelqu'un. Mmh. Voilà. Et tout de suite, c'est sa ligne de défense. Mais effectivement, la plupart des amis, des proches de Lana Clarkson la voyait pas du tout comme quelqu'un de suicidaire. Elle était vive, enjouée, toujours partante. Donc ça ne semble pas cadré avec le personnage. Et même finalement sa carrière que beaucoup ont critiqué en disant elle était en perte de vitesse, c'était une actrice de série B. Elle y croyait toujours. Hein, donc elle n'avait pas encore abandonné ce rêve de percer un jour à l'écran.
Mais c'est ce que dit d'ailleurs la défense de Spector. Hein. Ses avocats disent c'est une fille qui était complètement déprimée, elle n'avait plus rien, plus personne n'en voulait. Donc voilà, elle a décidé finalement de jouer avec tout ça, de prendre de l'alcool, des médicaments, et puis ça s'est mal terminé.
C'est ce que dit la défense, effectivement, de Phil Spector. Ce n'est pas ce que disent les amis et les proches de Lana Clarkson, encore une fois. Donc voilà, c'est un peu parole contre parole dans ce que vous avez décrit, un huis clos.
Des amis, effectivement, qui vont être largement interrogés par les policiers, qui prennent très à cœur cette enquête. Et le parquet de Los Angeles est très, très présent dans cette enquête et pousse pour que les investigations avancent. La défense qui dira à propos de Lana Clarkson, je la cite... elle embrassait le flingue. Ça c'est Phil Spector qui va dire ça pour bien dire que effectivement elle était dans une espèce de jeu vaguement érotique avec ce revolver. Emmanuel Pierrat, avocat et invité ce soir, est dans le studio de l'heure du crime. Alors entre en scène un de vos confrères, Robert Shapiro, qui n'est pas n'importe qui. Là, c'est vraiment le procès hollywoodien qui démarre, on peut dire, avec l'arrivée de Shapiro.
Avec une star du barreau, une des plus grandes stars du barreau américain, qui compte quand même beaucoup de ténors, Robert Shapiro. Il est surtout, c'est un pénaliste, il est connu pour deux faits d'armes principaux. Le plus célèbre, c'est l'acquittement d'O.J. Simpson, en 1995, qui est le procès qui a connu, avant celui de Phil Spector, le plus de retentissement médiatique en Californie. On se souvient tous des images de O.J. Simpson s'enfuyant du domicile à son ex-femme, avec suivi par les caméras, embarqué dans les hélicoptères. Et c'est donc l'homme qui, malgré ces vidéos, malgré ce film, entre guillemets, ce documentaire en direct sur un fuyard et un criminel, réussit à obtenir l'acquittement. Mmh. Il n'est pas seul, hein, il est avec Robert Kardashian, de la famille Kardashian, exactement, si je puis me permettre, d'autres avocats, mais il est l'homme qui obtient quand même l'acquittement.
Oui, c'est lui qui va monter d'ailleurs l'équipe pour O.J. Simpson, l'équipe d'avocats. Et je pense que à ce moment-là, Phil Spector, il attend qu'une chose, c'est que évidemment, il ait le même traitement.
Oui, il a été aussi, son nom est venu de façon au premier rang, en quelque sorte, dans l'affaire de Christian Brando, le fils de Marlon Brando,
exact,
qui accusé d'avoir tué, jugé à Papette, accusé d'avoir tué le petit ami de sa sœur Cheyenne, une histoire assez célèbre, dans laquelle Jacques Vergès d'ailleurs était venu représenter.
Oui, parce que c'était l'avocat de Brando, tout simplement, et il défendait les intérêts de Brando dans cette histoire.
Donc c'est une bête, si je puis me permettre, c'est l'avocat star pénaliste vient chercher celui qui obtient l'impossible devant un jury. Encore une fois, on est devant un système américain, devant un jury populaire, c'est-à-dire 12 jurés tirés au sort, conduits par un magistrat professionnel, mais qui sont livrés à eux-mêmes. Vous vous souvenez de ce film, 12 hommes en colère. Mmh. Et donc, il y a 12 personnes qui doivent arriver à une unanimité, selon le système californien.
Il ne faut pas l'oublier, on est à Hollywood. Hein, donc, on a le plus grand producteur du monde, même s'il est vieillissant. Et puis, on a les avocats les plus capés du moment. Un mot, Emmanuel Pierrat, sur la caution, qui, moi, me paraît énorme, 1 million de dollars. Il y en a eu d'autres bien plus lourds. lourde, mais sinon c'est quoi? C'est la prison?
On négocie la caution pour ne pas aller en prison. C'est le bail, il faut donc payer et l'État détient cet argent et ne vous le rend pas, évidemment, si vous enfuyez, si vous prenez la poudre d'escampette. Et par ailleurs, ça ne suffit pas. Il faut présenter un certain nombre de garanties de représentation, c'est-à-dire le fait qu'il a un domicile, qu'a priori, enfin il y a plusieurs choses. Il n'y a pas que l'argent qui permet de s'en sortir, mais l'argent joue un rôle déterminant. Ça peut sembler beaucoup, $1 million, et en même temps, il y aura un contentieux entre Phil Spector et Robert Shapiro, parce qu'il y aura une valse d'avocats, oui. Et il y aura un litige sur $1 million d'honoraires versés en avance à Shapiro, que celui-ci refuse de rendre à son client
d'argent.
En disant « j'ai déjà travaillé ». Donc vous voyez, les sommes, les millions, Jean-Alphonse Richard, volent très facilement, mais on est dans une affaire avec un avocat millionnaire et un client ultra-millionnaire.
Un client ultra-millionnaire qui dit tout simplement « Elle embrassait le flingue, je n'ai rien fait de mal », dit Phil Spector dans une interview, sans convaincre les policiers et le procureur de Los Angeles. 9 mois et demi après la mort de Lana Clarkson, le producteur est mis en accusation pour meurtre. Le roi de la pop et du rock, Phil Spector, l'enquête dit qu'il l'a tué, va-t-il prouver le contraire? C'est ce soir, l'enquête de l'heure du crime, la suite dans un instant sur RTL.
20h-21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. RTL. 20h-21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Au programme ce soir de l'heure du crime, l'affaire Phil Spector. À l'automne 2003, le producteur le plus connu de la planète est officiellement accusé du meurtre de Lana Clarkson. La bataille d'experts peut commencer. Le 20 novembre 2003, Phil Spector est désigné comme l'auteur du meurtre de Lana Clarkson. Il s'expose alors à une double inculpation selon la loi californienne. Avoir ôté la vie humaine avec préméditation et usage d'une arme pour perpétrer un crime violent. Le tarif pour ce genre d'inculpation varie de 15 ans minimum à la perpétuité. Spector se voit proposer une procédure rapide, mais il refuse. Il n'est pas pressé de rencontrer ses juges et préfère avoir du temps pour préparer sa défense, espérant que les charges, qui sait, s'écrouleront d'elles-mêmes. La guerre juridique, expertise et contre-expertise, va ainsi durer 3 ans et demi avant que le procès de Phil Spector puisse s'ouvrir. Si pour le moment Spector est sur la sellette, c'est essentiellement en raison des conclusions du rapport du coroner, le médecin légiste du comté de Los Angeles. Celui-ci parle d'homicide. Le rapport indique que Lana Clarkson est morte d'une balle entrée dans le crâne alors que l'arme était enfoncée dans sa bouche. L'hypothèse d'un tir à bout portant est la plus crédible, expliquent les experts. La victime était en partie déshabillée, sa jupe longue noire et ses gants noirs habillés étaient dans un sac. Dans son sang a été retrouvé un puissant analgésique, de la codéine à base d'opiacés, ainsi que de l'alcool, mélange qui l'a de toute évidence rendu somnolente. Le rapport précise sur ce point que malgré la prise d'analgésique, Lana Clarkson n'avait aucune pulsion suicidaire, aucune tentative précédente, aucune lettre découverte à son domicile de Venice Beach, où tout était en ordre. Précaution qui ne va pas empêcher la défense de Spector de faire savoir que Lana Clarkson était une femme déprimée, sans emploi au cinéma, s'accrochant en n'importe quel petit boulot pour subsister. 3 jours après la publication du rapport, le producteur et ses avocats se présentent à une audience préliminaire. Occasion de faire feu de tout bois contre les conclusions des légistes. L'équipe de défense a vite repéré une faille. De nombreuses particules de résidus de tir ont été retrouvées sur les mains de la victime. Le rapport sur ce point admet que cela pourrait signifier que Clarkson a elle-même tiré ou bien que ses mains se trouvaient à proximité du coup de feu. Les avocats notent encore qu'aucun résidu de tir n'a été trouvé sur les mains du producteur. Son ADN et ses empreintes ne sont pas sur l'arme. Ils mettent enfin en doute les premières paroles recueillies par le chauffeur. « Je crois que j'ai tué quelqu'un ». Un chauffeur ironise la défense, assis à l'intérieur d'une voiture fermée, avec la radio allumée et somnolent. Qui plus est, ce Brésilien ne comprendrait pas vraiment l'anglais. Emmanuel Pierra, avocat et ce soir notre invité dans l'heure du crime. La bagarre judiciaire démarre. Expliquez-nous en quelques mots, c'est une procédure à l'américaine.
C'est une procédure qu'on appelle accusatoire, par opposition au système français.
C'est-à-dire qu'on va commencer à refaire l'enquête.
On refait l'enquête et ce sont les avocats qui font l'enquête, qui mènent le jeu. Le magistrat n'est là que pour arbitrer en quelque sorte le match dans lequel on recommence à zéro, on fait venir des témoins, on peut aller chercher des preuves et les avocats de Phil Spector ne s'en privent pas. C'est-à-dire, la différence dans un système français tel qu'on le connaît, il est impossible pour un avocat d'aller refaire l'enquête, d'aller chercher des témoins, d'aller sortir des armes ou quoi que ce soit. Là, c'est un procès qui est mené par les avocats de la famille de la victime et par les avocats de Phil Spector, avec aussi le procureur américain qui poursuit. Le magistrat vraiment assiste avec ses 12 jurés, assiste et ne fait que compter les points.
Il est
vous connaissez ces fameux, ces fameuses formules, objection, votre honneur, etc. Oui. Donc, on est dans un match.
Alors, les avocats de Spector, ils sont très agressifs, et ils sont dans leur rôle d'ailleurs. Ils ne laissent rien passer du tout. J'ai parlé de ces histoires qui sont très troublantes, de résidus de tir, et notamment les premiers résidus de tir, c'est sur les mains de la victime. Comment expliquer ça? Elle a tiré ou
ça veut dire qu'elle a tiré, ou en tout cas, elle n'est pas loin. Selon moi, il y a quatre thèses possibles qui sont soulevées tour à tour. Il y a la thèse du suicide. C'est-à-dire, elle se serait elle-même suicidée de désespoir, à l'issue d'une carrière ratée, etc. C'est ce que va tenter de plaider, de dire lui-même Spector. Il y a la thèse totalement inverse, c'est celle de l'accusation, qui est donc le meurtre volontaire commis par Spector, qui est connu pour être violent, on va y revenir, et utiliser des armes souvent, et donc l'aurait véritablement abattu. Et puis, il y a deux thèses au milieu d'accident, soit elle sait elle-même porter un coup fatal en jouant avec le pistolet, soit lui, jouant avec aussi, comme il l'a fait de nombreuses fois dans sa vie, a fait partir le coup sans avoir voulu nécessairement tirer. Donc il y a, et les avocats de Spector vont être sur les thèses de l'accident et les thèses du suicide, essayant de jeter le trouble. Leur but n'est pas nécessairement d'obtenir une conviction chez les jurés, mais d'obtenir le doute,
Semer le doute, puisque le jury doit être unanime. C'est de semer le doute. Thomas Cantaloup, vous êtes en ligne ce soir avec nous dans l'heure du crime. Encore une fois, vous connaissez parfaitement les États-Unis. On le disait à l'instant, un accusé, Phil Spector, qui, c'est quelqu'un qui a un profil assez violent. Il a prouvé par le passé ce maniement des armes en permanence.
Bah oui, malheureusement pour lui, et moi je me rappelle, à l'époque j'étais journaliste aux États-Unis et j'avais un article à écrire justement sur le fait que, ayant été réveillé le matin en apprenant la nouvelle qu'il avait apparemment tué quelqu'un, une première recherche fait immédiatement sortir des récits de gens connus, puisque c'est John Lennon qui avait dans une interview raconté comment Phil Spector avait tiré en l'air dans le studio et John Lennon avait fini par lui dire soit tu me tues, soit tu me laisses tranquille, mais là tu me casse les oreilles et c'est mon instrument de travail, mes oreilles. Donc arrête.
C'est bien répondu.
Et puis voilà. Et puis les autres, c'était les Ramones, donc des punks new-yorkais qui ont grandi dans la banlieue dure du Queens, racontaient avoir été effrayés par Phil Spector lors de l'enregistrement de leur album End of the Century en 78, je crois, parce que Phil Spector brandissait sans arrêt une arme en studio. Donc voilà, ça c'est des témoignages qui sont apparus essentiellement dans la presse musicale. À l'époque, c'était plutôt cocasse, rigolard, en disant voilà, Spector c'est un personnage un peu branque. Mmh. Mais vu dans les circonstances de la mort de Lana Clarkson, ça revêt tout de suite un autre aspect.
Bien sûr.
Très vite, il y a d'autres femmes qui vont venir témoigner dans ce sens-là aussi.
Oui, c'est ça, des femmes qui vont, on va en parler dans un chapitre suivant, mais des femmes qui vont venir témoigner contre Spector et contre ce goût finalement fatal pour les armes. Emmanuel Pierra, il y a aussi une technique dans ce dossier, c'est décrédibiliser la victime, on le comprend bien. C'est essayer de la mettre en fragilité et de dire que finalement, c'était elle-même qui s'est donné la mort.
D'autant plus facile qu'évidemment, par définition, elle n'est pas là pour se défendre. Et donc on peut lui prêter toutes les intentions, tous les comportements.
Et ça va même être insultant.
C'est très insultant, bien sûr. On va dire, on va parler pratiquement de prostitution et de racolage. On hésite pour dire, elle est là, la House of Blues, soit... on va dire dans une hypothèse très optimiste pour faire une rencontre extraordinaire avec un producteur qui d'un seul coup reconnaîtrait son talent après s'être souvenu qu'elle a été dans des séries B et un petit rôle dans Scarface aussi qu'il faut lui reconnaître, ou bien éventuellement pour, on va dire, passer directement à l'action et ramasser quelques billets à la fin d'une nuit pas nécessairement agréable. Voilà, donc il y a cette accusation très forte qui reviennent, qui vise véritablement à la ramener à autre chose qu'au statut de victime.
Et on traitera même Lana Clarkson de fausse Marilyn. Enquête contre enquête, les audiences vont ainsi se poursuivre sans que l'issue de ce face-à-face entre accusation et défense ne soit évident. Au printemps 2007 va enfin s'ouvrir le procès de Phil Spector. Coupable ou innocent, on va savoir. Phil Spector, pas de résidus de poudre, mais a-t-il du sang de Lana Clarkson sur ses mains ? C'est l'enquête ce soir de l'heure du crime. On se retrouve tout de suite sur RTL.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime, consacrée ce soir à l'affaire Phil Spector, 4 ans après la mort de l'ex-actrice Lana Clarkson. Il comparaît pour meurtre devant un tribunal criminel. Procès qui va durer des mois et au cours duquel il risque la prison à vie. Le mercredi 25 avril 2007, Phil Spector fait son entrée à la section 106 du Clara Shortbridge Faults Criminal Justice Center de Los Angeles, l'équivalent d'une cour d'assises. Jusque-là, lors des rendez-vous au tribunal, il avait multiplié les apparitions extravagantes. Toute une série de perruques du genre frisé façon Louis XV jusqu'à une permanente blonde de 20 cm de haut. Cette fois, la sobriété est de mise. Une stricte redingote violine et un postiche blond dans le plus pur style des Beatles. Il paraît anxieux et ses mains tremblent. Le procureur Alan Jackson, 42 ans, porte l'accusation. Il compte bien mettre en avant le lourd passé de violence de l'accusé envers les femmes. 4 sont appelées à témoigner. Toutes ont été menacées par le producteur avec une arme à feu. Dorothy Melvin, manager artistique, dit avoir été mise en joue un soir par Spector alors qu'elle passait la soirée chez lui. Après lui avoir demandé en vain de se déshabiller, il l'avait laissé s'enfuir. Même scénario pour la photographe Stephanie Jennings, retenue sous la menace d'un pistolet dans sa chambre d'hôtel avant que Spector quitte les lieux et que la police arrive. Au fil des mois, et alors que le procès sombre dans un marécage procédural, le portrait d'un Phil Spector menaçant, violent, se déplaçant constamment avec des armes, cette silhouette se dessine. La défense de l'intéressé, assurée désormais par le pénaliste Bruce Cutler, va tout mettre en œuvre pour détourner l'attention des jurés et tout miser sur les faiblesses du dossier de médecine légale. Nous allons démontrer que jouer avec des armes de manière provocante et lubrique peut aboutir à la mort, annonce l'avocat. Expertise à l'appui, la trajectoire de la balle accréditerait la thèse d'un tir par Lana Clarkson elle-même. L'absence de résidus de tir sur les mains et sur les vêtements du producteur prouverait également qu'il n'a pas tiré. Quant au sang retrouvé sur sa veste, le docteur Henry Lee certifie que les projections sanguines suite à une blessure par balle intrabuccale peuvent aller de 2 mètres à 2 mètres 60. 5 mois d'audience. Le 18 septembre 2007, après une semaine de délibération, les jurés annoncent qu'ils ne se sont pas mis d'accord et qu'ils ne peuvent prononcer un verdict. Le juge demande de nouvelles délibérations, la défense exige l'annulation du procès. Les jurés se réunissent à nouveau. Cette fois, Phil Spector est persuadé qu'il va être condamné. Le 26 septembre, au terme de 12 jours de délibération, le jury n'est toujours pas parvenu à un accord unanime. 10 le considèrent comme coupable, 2 soutiennent l'inverse. Le procès s'effondre, un répit momentané car le bureau du procureur annonce qu'il va continuer à poursuivre Spector et que celui-ci sera rejugé. Maître Emmanuel Pierrat, 10 jurés qui votent coupable, 2 qui votent non coupable. Il est passé tout près de la condamnation, Phil Spector. Il s'en sort parce que, il faut le rappeler, il faut l'unanimité absolue.
Il faut l'unanimité, c'est une spécificité dans bon nombre d'États américains et en particulier en Californie. Donc il y a ces 12 citoyens tirés au sort mais choisis. Comme vous le savez, dans un processus très long, on fait venir une centaine de personnes, ils sont interrogés, les avocats passent leur temps à leur poser des questions avant de sélectionner 12, et ces 12 doivent absolument tomber d'accord. Et d'où cet enfermement coupé du monde jusqu'à ce qu'ils aient un verdict unanimement. Il y a cette question, avez-vous tiré un verdict ? Et la réponse doit être oui. Et quel est le verdict, coupable ou non coupable ? Et là, le jury est un peu capable de se mettre d'accord.
Ils n'ont pas tranché, effectivement. Thomas Cantaloupe, vous êtes en ligne dans l'heure du crime. Procès à grand spectacle, ce procès Spector, suivi, par, je suppose, par toutes les télés. C'est la justice spectacle à l'américaine.
Voilà, donc pour ce premier procès, le juge autorise les caméras dans l'audience. Donc peut-être qu'Emmanuel Pierre me contredira, mais enfin bon, ça incite au spectacle et à la théâtralisation. On a pu voir quelques années auparavant ce que ça a donné dans l'affaire O.J. Simpson. Et effectivement, il y a les télés, il y a tous les chroniqueurs judiciaires les plus connus, dont un qui s'appelle Dominic Dunne, qui a longuement écrit dans Vanity Fair sur ce procès. Tous les soirs, il y a des comptes rendus d'audience. Voilà, c'est un nouveau procès à grand spectacle.
Et puis Spector, qui est un homme de spectacle, il joue avec tout ça. J'ai parlé évidemment de ses perruques, il va avoir des tenues parfois un peu extravagantes. Et il va se montrer, il ne se cache pas.
Mais voilà, c'est un excentrique, il y a des perruques, il y a une façon de parler assez haute, assez nasillarde, il se cache pas, les avocats sont effectivement des pointures du barreau, donc ils connaissent aussi tous les chroniqueurs judiciaires, ils discutent, ils passent à la télé. C'est le grand show dans toute sa splendeur, comme l'Amérique adore, hein. Voilà, c'est un spectacle, effectivement, le producteur le plus connu au monde face à qui il peut ou pas une jeune innocente que finalement personne ne connaissait.
Maître Emmanuel Pierrat, est-ce que Phil Spector paye sa mauvaise réputation lors de ce procès ?
Oh, sans doute, elle est longuement disséquée. Le spectacle est lié à deux éléments, hein, beaucoup. Alors il y a évidemment le physique de Phil Spector, mais les deux éléments biographiques, c'est d'une part sa mauvaise réputation. Thomas Cantaloupe tout à l'heure citait les frasques avec John Lennon menacé, dont l'entourage est menacé par une arme. Les Ramones, il y a aussi Leonard Cohen qui est menacé par une arbalète.
Ah, également.
Par Phil Spector, une arbalète, c'est pas rien. Je pense que quand vous êtes menacé par une arbalète, ça a un cachet particulier et assez excentrique. Et puis il y a eu même à la fin de la carrière de Phil Spector, alors qu'il a déjà eu toutes ses heures de gloire, sont pas passées, mais qu'il est presque plus producteur, il est contacté par Céline Dion et il menace René, célèbre mari de Céline Dion, avec une arme pour conclure la négociation. Et René s'enfuit.
Le disque ne sortira jamais.
Ne sortira jamais d'ailleurs. Donc il y a d'un côté tout cela, et puis il y a les accusations des femmes qui ont été menacées par lui, et puis de l'autre côté, il y a tous les tubes, toute cette gloire et tout ce passé musical qui est mis en scène.
Mais justement, est-ce qu'il a des appuis à l'audience ? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent témoigner pour lui ?
Il y a des gens qui défilent, évidemment, beaucoup de gens ont leur carrière. Pour lui, bien sûr. Il a révolutionné la musique. Il est non seulement un producteur, on va dire presque de génie, au sens du c'est un musicien. Il commence à 19 ans comme chanteur, il fait un premier tube. Ensuite, il en compose un qui, à 20 ans, il la décroche, il est au numéro 1 de hit parade pour avoir composé. Il écrit une des premières chansons, une chanson sur le premier album des Rolling Stones. Donc, c'est une légende. Et tout cela, évidemment, lui attire des témoins ou permet de faire venir, dans cette procédure particulière américaine où les avocats dressent le programme, permet de faire défiler beaucoup de monde à la barre en sa faveur.
Procès à grand spectacle, pas de peine pour Phil Spector, mais qui va être effectivement rejugé cette fois, malgré les doutes, la chance qu'il avait accompagné toute sa vie, cette baraka qu'il avait eue tout au long de cette procédure, va le quitter. Les portes du pénitencier vont s'ouvrir devant lui. L'affaire Phil Spector, non coupable de meurtre une première fois, mais certainement pas deux. C'est l'enquête ce soir de l'heure du crime, à tout de suite sur RTL.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL.
Ce soir, dans l'heure du crime, l'affaire Phil Spector, le producteur de Let It Be, a échappé à une condamnation à un premier procès pour le meurtre de la starlette Lana Clarkson. Le procureur de Los Angeles a fait appel. Spector comparaît donc à nouveau. Un an après avoir quitté libre la cour criminelle de Los Angeles, Phil Spector est à nouveau dans la même salle. Alors que son premier procès avait passionné l'Amérique et mobilisé les médias, ce second round judiciaire est beaucoup moins médiatisé. Le producteur, âgé de 68 ans, paraît éreinté Il est très seul et le public est clairsemé pour assister à ce qui sera, quoi qu'il arrive, au chant du cygne du plus grand des producteurs du siècle. Les audiences se succèdent, mêmes accusations que lors du premier procès. Spector est présenté comme un homme violent et dangereux pour les femmes. Mêmes arguments côté défense. La victime était dépressive. Des experts payés plus de 400 000 dollars démontrent qu'elle a pu tout à fait se donner la mort. L'enjeu pour Phil Spector n'a pas varié. Une nouvelle fois, il risque de finir ses jours en prison. Au terme de 6 mois d'audience, les jurés, cette fois, se mettent d'accord. Le 13 avril 2009, après 29 heures de délibération, Spector est reconnu coupable d'homicide volontaire, sans préméditation, condamné à 19 ans de prison. 6 ans, 2 mois... Et 10 jours après la mort de Lana Clarkson, Phil Spector quitte le monde libre. Il est écroué à la prison des Twin Towers de Los Angeles, l'une des plus brutales du pays. Il sera plus tard transféré au centre pénitentiaire de Stockton, toujours en Californie, près de San Francisco. Phil Spector ne va plus beaucoup faire parler de lui. Il va mourir en détention le 16 janvier 2021 à 18h35. Il avait été hospitalisé pour des problèmes respiratoires, Covid-19 selon certaines sources. Mort naturelle pour l'administration pénitentiaire californienne. Emmanuel Pierra, avocat, évidemment c'est toujours très difficile à savoir, mais comment expliquer ce changement de verdict? La défense a craqué, on ne pouvait plus tenir cette ligne du suicide de Lana Clarkson.
Alors la défense a craqué véritablement parce que Phil Spector a utilisé plusieurs avocats qui ont
les a épuisés,
qui ont démissionné et qui se sont jurés de ne plus le défendre. On a commencé par Robert Shapiro, il y a eu Leslie Abramson qui était une avocate extrêmement célèbre pour avoir défendu notamment les frères Menendez, deux tueurs extrêmement fameux. Il y a ensuite eu Bruce Cutler, que vous avez cité, qui est un avocat spécialiste de la mafia. Et on se retrouve là, dans ces nouvelles audiences, avec encore un autre avocat, une nouvelle équipe qui doit recommencer, avec des incohérences dites par leurs clients. Et puis il y a maintenant, peut-être sans doute moins la gloire de la période musicale de Phil Spector, et surtout les plaintes des femmes qu'il a malmenées toute sa vie, plus derrière d'autres accusations qui remontent à la surface, le fait que deux des enfants adoptifs qu'il avait auraient été victimes, qu'il les aurait offerts en pâture à ses anciennes conquêtes, sexuellement, s'entend.
Oui, tout ça est
donc
sorti pendant ce laps de temps.
Tout cela sort pendant ce laps de temps et finit par teindre le portrait de façon absolument...
Une image désastreuse de cet homme qui n'intéresse presque plus personne. Je crois qu'à ce procès, d'ailleurs, s'il a eu des témoins de moralité, entre guillemets, lors du premier procès, à celui-ci, il n'y avait personne et personne n'est venu témoigner finalement en sa faveur. Thomas Cantaloupe, vous êtes en ligne dans l'heure du crime. Que sait-on de sa détention de Phil Spector? Est-ce qu'il a fait parler de lui? Il s'est manifesté à un moment donné?
Non, très peu. Je ne sais plus s'il y avait des obligations de confidentialité ou pas, mais c'est vrai qu'on n'a plus entendu parler pendant 10 ans, en fait. Et il a probablement vécu sa vie de prisonnier lambda, comme vous le disiez, à Stockton. Donc Stockton, c'est effectivement entre San Francisco et Los Angeles, au milieu de nulle part. Et voilà, c'était quelqu'un qui s'était brouillé avec beaucoup de monde. Ses meilleurs amis étaient morts, hein, puisque c'était John Lennon, Lenny Bruce, Dennis Hopper, il est mort depuis belle lurette, donc on peut y penser, même si effectivement j'ai rien lu là-dessus, mais que il a fini sa vie seul, un prisonnier lambda.
Sa vie tout seul, puisque même à l'extérieur, je crois qu'il s'était remarié à une jeune femme d'une vingtaine d'années, et celle-ci, je crois,
exactement,
il l'a quitté avant le procès, c'est ça?
Voilà, il s'était remarié en 2006 et elle l'a quitté depuis la prison, en fait. Il a divorcé depuis la prison par correspondance, en quelque sorte. Et donc voilà, elle était partie. Ses enfants, je crois qu'il avait 2 enfants adoptifs et 2 enfants naturels, je sais plus exactement. Enfin, 3 ou 4 enfants s'étaient détachés de lui. Son ancienne femme ne voulait plus le voir. Donc il était complètement isolé.
Je disais, Thomas Cantaloube, que ce deuxième procès n'avait peut-être pas eu le succès médiatique du précédent. Vous confirmez, à ce moment-là, il est un peu has-been, Phil Spector.
Il est has-been. Le premier procès avec sa caravane de spectacles a quand même un peu lassé. Recommencer tout ça, c'est jamais très bienvenu. Hein. C'est comme les sequels des films, souvent les gens se désintéressent un peu. Mmh. Et puis effectivement, quand à partir du moment où le bureau du procureur décide de ne pas laisser tomber, parce que dans le cas d'un mistrial, il aurait pu laisser tomber, dire bon bah voilà, on n'a pas assez d'éléments pour établir la culpabilité. S'ils décident de poursuivre, c'est qu'ils sont assez sûrs de leur coup. Et voilà, une deuxième fois, ça va passer. Donc le verdict est quasiment connu d'avance.
Oui, parce que c'est ça, c'est aux États-Unis, et ça c'est un petit point qu'on peut développer peut-être avec Maître Pierrat, l'accusation, c'est-à-dire le procureur, doit vraiment être sûr de lui, avoir des billes, comme on dit, pour avancer, sinon il n'y a pas de procès, on n'avance pas.
Sinon il n'y a pas de procès, effectivement, et puis on détache, on coupe en deux, entre guillemets, il y a le verdict de culpabilité qui tombe, et c'est seulement dans un deuxième temps que, ça n'est plus le jury qui le décide, que tombe la peine exacte de prison. Et en l'occurrence, 15 ans pour le meurtre au second degré, c'est-à-dire le meurtre sans préméditation, pour traduire le langage procédural américain, et 4 ans pour la détention d'armes, puisqu'on trouve plusieurs armes, pas loin d'une dizaine à peu près, à son domicile, en plus de celle qui a servi à tuer d'une façon ou d'une autre Lana Clarkson.
L'affaire Spector, et puis ce procès quand même très long, comme toujours aux États-Unis, ça fait partie des très grands procès médiatiques, des procès de stars, on peut le dire comme ça?
Oui, je pense que c'est un très grand procès, c'est un procès très spectaculaire, comme on l'a vu et comme on l'a raconté, et puis on garde toujours à l'esprit que Phil Spector est d'un côté un abominable tueur de femmes, tel qu'il a été jugé définitivement par la justice, mais aussi le producteur de Let It Be et d'Imagine. Mmh. Donc ça reste quelque chose d'extraordinaire, la fin, la chute de cet homme qui a régné sur la musique américaine et même la musique mondiale de disques, telle qu'on l'a connue. Donc 50 ans de show business est une chute extrêmement spectaculaire et une chute judiciaire.
Alors, il a été jugé coupable, on ne va pas revenir là-dessus, évidemment, on ne va pas refaire le contester ou quoi que ce soit.
Vérité judiciaire.
C'est pas du tout le but. Mais est-ce que on sait vraiment ce qui s'est passé cette nuit-là au Pyrénées Castle, cet incroyable manoir sur les hauteurs de...
On ne le saura jamais. On aurait pu éventuellement avoir des confessions de dernière minute de Phil Spector. C'est trop tard depuis la semaine dernière. Donc nous ne saurons jamais ce qui s'est passé exactement pendant les 3 heures entre le moment où il quitte sa voiture, rentre dans le Pyrénées Castle, ce château extraordinaire, et que 3 heures plus tard, chauffeur y rentre pour y trouver le corps de Lana Clarkson. Mm-hmm. Enfin, il y a toujours ces différentes hypothèses et un scénario que l'on peut continuer d'imaginer.
Il y aura toujours ce doute. Juste encore un petit mot, Thomas Cantaloube, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Il va y avoir, je crois, un film sur Phil Spector. C'est quelqu'un qui intéresse le cinéma beaucoup?
Probablement, il y en a déjà eu un, en fait, qui est sorti sur HBO il y a quelques années, réalisé par David Mamet avec Al Pacino qui jouait Phil Spector. Il est probable qu'on en refasse parce que voilà, c'est une histoire fabuleuse, quelqu'un qui a orchestré de manière lumineuse des tubes fabuleux et qui a disparu après pendant des années un peu reclus dans sa villa pour finir par commettre un crime. C'est effectivement une œuvre de fiction.
Absolument. Merci beaucoup Thomas Cantaloube et Manuel Pierrat d'avoir été les invités de l'heure du crime avec ce soir l'affaire Phil Spector décédé samedi dernier et qui a emporté avec lui les secrets de la mort de Lana Clarkson, coupable pour la justice californienne. Merci à Justine Vigneault, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission. Marc Bisset était à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir avec nous cette heure du crime.
Pour écouter RTL au travail,
sur la route,
dans les transports,
dans votre jardin
et où que vous soyez,
téléchargez dès maintenant et gratuitement la nouvelle application RTL.
RTL, toujours avec vous.